Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous. Nous parlons ce soir des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Elles seront lourdes. On voit déjà à quel point les places boursières sont fébriles, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Et même s'il est difficile aujourd'hui d'évaluer précisément le coût de cette pandémie, l'Observatoire français de conjonctures économiques, l'OFCE, a publié hier des estimations. Un mois de confinement entraînerait une perte de 60 milliards d'euros pour l'économie française. Plus ça dure, plus les conséquences risquent d'être importantes. Alors, peut-on anticiper, peut-on minimiser les conséquences économiques de la pandémie ? On en parle pendant les 20 prochaines minutes avec mes invités. Bonsoir Xavier Timbaud.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et vous dirigez l'Observatoire français de conjonctures économiques. Vous allez donc pouvoir nous parler en détail de l'étude qui a été publiée hier. Pour faire le point sur les conséquences économiques en France de cette pandémie, nous sommes aussi en ligne avec Aurélie Trouvé, économiste également et porte-parole de l'organisation ATTAC. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas votre organisation, ATTAC, c'est l'acronyme de Association pour une taxation des transactions pour l'aide aux citoyens. Je vous remercie tous les deux d'être avec nous pour parler donc de ce qui attend l'économie française, enfin, dans la mesure de ce qu'on peut prévoir. Xavier Timbaud, comment est-ce que vous avez travaillé à l'OFCE pour évaluer les conséquences de cette pandémie ?
Alors, on a travaillé sur une base qui est ce qu'on appelle une base spéculative, qui consiste à essayer de traduire en termes économiques le scénario que nous vivons, qui est celui du confinement. Donc on a pris les différentes activités qui étaient soit empêchées, en particulier l'arrêté du 15 mars qui détermine un certain nombre de fermetures obligatoires, soit les conséquences que cela peut avoir sur la vie de tous les jours, à la fois en termes de consommateurs, mais surtout en termes de salariés et de travailleurs, donc qui peut télétravailler, qui ne peut pas télétravailler, qui a droit au chômage partiel. Et donc en construisant le scénario à partir des différents secteurs et des différentes catégories de population qui sont touchées, d'aboutir à une image globale qui nous paraît assez indicative, en tout cas si ce n'est réaliste, de ce qui se passe en ce moment dans l'économie française. C'est forcément imprécis et la réalité sera nécessairement différente de ce qu'on a évalué. Mais l'intérêt de le faire, c'est aussi de pouvoir guider les politiques publiques, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe et donc du coup de savoir quelles sont les réponses qu'on peut apporter à cette situation.
Alors vous en êtes arrivé à la conclusion qu'un mois de confinement entraînerait une perte de 60 milliards d'euros pour l'économie française. À quoi correspondent ces 60 milliards, Xavier Timbaud ?
Alors, ces 60 milliards, ils correspondent pour une partie, en gros 70%, correspond à la chute de la consommation des ménages et l'investissement des entreprises qui va être empêchée par les mesures de distanciation sociale, donc le fait qu'on ne puisse plus aller au restaurant, le fait qu'un certain nombre de commerces soit fermé, le fait que le tourisme soit très largement limité. Il y a un impact aussi très important dans le domaine du transport. Et puis un certain nombre d'investissements, en particulier dans le bâtiment, des chantiers qui sont interrompus. Donc tout ça conduit d'abord à une chute de demande, de consommation et d'investissement des entreprises. Et puis 30% à peu près est lié aux mesures qui sont liées au fait que les salariés sont confinés chez eux, et donc l'impact du télétravail, l'absentéisme lié soit aux arrêts pour garde d'enfants, soit aux gens qui sont malades, soit aux gens qui exercent leur droit de retrait en estimant que leur santé est en danger et donc qui préfèrent ne pas se rendre dans leur travail. Il y a aussi une dimension de l'arrêt des systèmes de transport qui fait que ça peut être très compliqué de se rendre à son lieu de travail. Voilà, donc toute cette partie-là représente à peu près 30% du choc. Voilà, ça vient fondamentalement des mesures de confinement. Une mesure de confinement qui se justifie pour des raisons sanitaires qu'on comprend bien, mais qui ont des conséquences économiques qui sont assez majeures, puisque c'est quand même dans un choc d'une brutalité. Alors on espère qu'il ne va pas durer trop longtemps, mais c'est un choc d'une brutalité absolument inédite, puisque même pendant la crise de 1929 ou pendant la crise de 2008, on n'a pas vu concentrer sur un mois des effets économiques aussi forts.
Alors évidemment, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière. Vous en avez évoqué quelques-uns. Qui s'en sort le mieux et pour qui est-ce que c'est le plus dur, Aurélie Trouvé ?
Qui s'en sort le mieux, je pense en particulier à des entreprises évidemment comme Amazon, Netflix, etc. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement pas touchés par le confinement, mais au contraire qui engendrent des bénéfices encore plus importants du fait de ce confinement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, à TAC, on propose par exemple des formes de taxation exceptionnelles aussi sur ce type d'entreprise. Et puis vous savez aussi que ce sont parfois des entreprises qui continuent à faire travailler des travailleurs sans le matériel, dans des endroits confinés et parfois jusqu'à 60 heures, puisque maintenant avec les ordonnances d'urgence, les employeurs peuvent décider de faire travailler jusqu'à 60 heures, par exemple. On met de côté en fait le code du travail pendant un moment.
Et dans des lieux confinés, c'est lié à l'état d'urgence sanitaire qui a été adopté en France.
Voilà. Enfin, alors du coup, ce qu'on critique nous, c'est le fait que, par ailleurs, ces employeurs qui ne dispensent pas forcément d'activités essentielles pour la population puissent continuer à exercer. Alors même d'ailleurs que certains entrepreneurs demanderaient à ce que ce ne soit pas le cas. Hein. C'est le cas du BTP où un certain nombre d'entrepreneurs ont au contraire demandé à pouvoir arrêter. On leur refuse la compensation de l'État pour le chômage partiel. Ce que nous critiquons aujourd'hui, c'est un message extrêmement contradictoire, c'est-à-dire restez chez vous, mais en même temps, allez travailler, et même on vous oblige à aller travailler dans des secteurs qui ne sont pas essentiels pour la santé de la population. Et ça, je crois que ça rejoint aussi l'étude de l'OCDE, qui, comme d'habitude, est effectivement très solide et importante. Mais en même temps, voilà, c'est certes, il y a un coût économique, mais là, l'urgence, elle est sanitaire. C'est une question de centaines, de milliers de morts. Et en fait, la vie n'a pas de prix. Et donc, non, aujourd'hui, il faut absolument que le gouvernement cesse d'inciter, même d'obliger à travailler dans des conditions qui, en fait, sanitairement, vont au contraire favoriser la propagation du virus. Donc il est urgent que le monde du travail soit uniquement mobilisé pour la production de biens et services essentiels à la population, comme ce qui a été décidé en Italie, et quel que soit le coût justement économique.
Quel que soit le coût, c'est ce qu'avait annoncé le président français dans l'une de ses allocutions, justement. On parlait donc des estimations de l'OFCE, 60 milliards d'euros pour un mois de confinement. Un mois, c'est ce qui est prévu en ce moment, puisque le pays est confiné depuis déjà 2 semaines et que ça doit durer jusqu'au 15 avril. Au moins, ça sera probablement plus. Est-ce qu'on arrive à évaluer ce qui peut se passer après, Xavier Timbo, si le confinement dure 6 semaines, ce qui est probable, voire davantage?
Alors, c'est un autre élément de difficulté. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que c'est difficile. Bon, évidemment, il y a une situation un peu naïf qu'on peut faire, qui serait de dire que si un mois de confinement coûte 60 milliards, 2 mois de confinement coûteront 120 milliards. Alors, il y a des petites nuances à apporter à ça. La première, c'est que si on s'installe dans 2 mois de confinement, ce qui n'est pas improbable, il y aura un certain nombre de mesures d'adaptation. Il y aura aussi un certain nombre, probablement, de matériel qui seront disponibles pour pouvoir mieux assurer la sécurité des salariés sur leur lieu de travail. Ces évolutions dans les recommandations, dans les mesures, dans les autorisations qui sont données, dans les incitations qui seront faites à tel ou tel secteur, peuvent changer quand même assez largement l'impact économique. Ça, c'est une chose d'un côté. Et puis de l'autre, ce qui risque de se produire, c'est que 2 mois de confinement vont avoir des effets plus graves, plus difficiles à encaisser du plan économique. Parce que en fait, des entreprises vont épuiser leur trésorerie, parce que simplement des salariés qui sont en télétravail auront fait un certain nombre de tâches qu'ils pouvaient faire en télétravail pendant les 15 premiers jours de confinement ou pendant le premier mois, mais que au bout d'un certain temps, leur activité, il y a un chemin critique qui passe par des interactions, et que si ces interactions ne sont pas possibles, le travail ne sera pas possible. De temps en temps, si vous avez besoin d'aller voir vos clients, vous avez besoin de réunions avec votre service de production pour pouvoir livrer telle ou telle chose ou faire tel ou tel réglage, et que les techniciens exercent leur droit de retrait à juste raison, à ce moment-là, voilà, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas finaliser votre activité, votre livraison et votre mise en production. Donc ça, plus le confinement dure, plus ça va jouer et plus ça va peser sur l'activité économique. Et plus les entreprises auront épuisé à la fois leur trésorerie, mais aussi les tâches qu'elles pouvaient réaliser sans compromettre leur année, leur année fiscale les tâches qu'elles pouvaient réaliser, disons, dans des circonstances exceptionnelles.
Alors, pour ne pas trop mettre en danger ces entreprises, Aurélie Trouvé, est-ce que l'État peut absorber, compenser ce choc économique ?
Alors, ce que voilà, je vais vous parler d'une tribune qu'on a écrite il y a quelques jours, hein, avec une vingtaine de grandes organisations syndicales et associatives, où on nous appelons justement le gouvernement d'abord à prioriser les très petites et moyennes entreprises, qui sont celles qui ont le moins de trésorerie pour pouvoir passer l'orage, mais aussi pour que ça ne se répercute pas, parce que je crois que ce qui est important là, c'est les conséquences sociales, hein, évidemment de cette crise, et pour que ça ne se répercute pas trop sur les salaires, notamment que dans les très grandes entreprises, il y ait une suspension des dividendes. L'État, de ce point de vue-là, a fait un bien trop petit pas, n'a pas conditionné le non-versement d'aide publique totalement à la suspension des dividendes. Donc nous demandons que soient tous les dispositifs, quels qu'ils soient, d'aide publique, qui soient interdits à toute entreprise qui ne passerait pas par une suspension des dividendes. Des dividendes, je vous le rappelle, hein, qui ont été records ces dernières années. Et ça nous semble vraiment la moindre des choses. Et puis, nous en appelons aussi à ce qu'il y ait une prise en charge, disons, sociale. Et moi, je crois que là, c'est peut-être le pendant aussi de l'étude économique qui a été faite par l'OFCE. C'est aussi les répercussions sociales à très court terme. Vous voyez, pour les sans-abri ou les très mal logés, évidemment, cette situation est dramatique. Donc, ça veut dire qu'il faut d'urgence réquisitionner les logements vacants, par exemple, ou mettre en œuvre des moratoires sur les loyers payés, sur les factures d'eau, d'électricité ou de téléphone ou d'Internet qui sont impayés du fait de revenus insuffisants. Et évidemment, c'est vrai que tout ça va engendrer évidemment une forte hausse de la dette publique, hein, du déficit public cette année et puis de la dette publique de manière générale. Et nous en appelons absolument aussi au fait que la Banque Centrale Européenne puisse prêter directement aux États membres, aux collectivités locales, à la puissance publique, pour pouvoir justement et prêter à des taux à 0%, hein, ce qu'elle fait vis-à-vis des banques. Donc qu'elle puisse prêter directement à la puissance publique, à l'État et aux collectivités locales, à ces taux à 0%, pour pouvoir justement financer toutes ces mesures d'urgence et à long terme qui seront nécessaires pour certes relancer l'économie, mais on l'espère d'ailleurs dans une voie écologique et sociale, mais surtout aussi pour faire en sorte que les répercussions sociales ne soient pas trop dramatiques.
Alors il y a eu un certain nombre de mesures en ce qui concerne les entreprises. Le gouvernement a mis en place par exemple un dispositif de chômage partiel. Le ministre de l'économie a estimé il y a 2 semaines que tout ceci pourrait coûter 8 milliards d'euros sur 2 mois, mais apparemment c'est très très en deçà de la réalité, puisque selon votre étude, Xavier Timbaud, les entreprises y ont très largement recours et qu'à terme ça pourrait concerner 1 salarié sur 5 en France, c'est ça ?
Oui, c'est effectivement un des éléments qui est assez important. Donc si on part sur la base de ces 60 milliards par mois, le dispositif de chômage partiel tel qu'il a été annoncé par le gouvernement, il remplit pas du tout l'objectif, il est bien dans ça, et il est probable qu'on sera bien au-dessus. Alors bon, le gouvernement, le ministre de l'économie a répété plusieurs fois quoi qu'il en coûte, et que ces dispositifs étaient ici ouverts et mis en place, et que l'estimation de leur coût était pour le moment tout à fait provisoire et pas une limite qui était posée. Donc bon, là-dessus on peut accepter cette chose-là, mais c'est sûr que tout ça va coûter cher en dette publique il faudra ensuite trouver les moyens et réfléchir à comment résorber cette dette publique. Alors par ailleurs, et ça je pense que c'est une chose qui est importante de savoir, il va y avoir un certain nombre de trous dans les dispositifs. La question des travailleurs indépendants n'est pas totalement réglée. La question des salariés en fin de droit ou des salariés en période d'essai qui n'auront pas leur contrat renouvelé ou prolongé. La question des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas nécessairement accès aux dispositifs de solidarité. Et puis, Aurélie l'évoquait, c'est un point important, tout ce qui est dans l'économie grise. Donc il y a les SDF bien sûr, mais il y a aussi tous ceux qui sont en situation plus ou moins régulières, ceux qui travaillent au noir, ceux qui sont des migrants sans papier et qui, eux, seront hors des dispositifs de solidarité.
Mais donc un certain nombre de personnes qui risquent de passer, de ne pas bénéficier justement des dispositifs qui ont été mis en place. Vous avez parlé tous les deux de la dette publique. Effectivement, cette pandémie de coronavirus va coûter cher à l'État. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les mois qui viennent ou l'année prochaine à une augmentation des impôts et à des politiques d'austérité, Aurélie Trouvé?
Alors, c'est le risque. C'est justement, c'est comment ne pas reproduire ce qui s'est passé après 2008, puisqu'en gros, en 2008, une crise financière qui se transforme en crise économique. L'État aide massivement les entreprises, relance l'économie avec beaucoup d'aide publique. Ça se transforme en dette et en déficit public très important, certes, mais aussi à des taux d'intérêt très importants. Et pourquoi? Parce que, en fait, vous le savez, l'État doit emprunter sur les marchés financiers aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que nous on réclame le fait que, comme dans d'autres pays d'ailleurs, hors de la zone euro, l'État et les collectivités locales puissent emprunter à un taux de 0% auprès de la Banque centrale et des banques publiques, notamment la Banque publique d'investissement, la Banque publique européenne, etc. Ça c'est très très important pour nous. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, ça va être aussi une question de restaurer qui rentrent dans les caisses de l'État, les recettes publiques, parce que vous savez, il y a par exemple de gros cadeaux fiscaux faits aux plus riches qui ont été accordés par le gouvernement et par Emmanuel Macron en tout début de mandat, et ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros par an. Donc il faut restaurer absolument notamment l'impôt sur la fortune, la flat tax, etc., qui sont des impôts sur les plus riches.
Remobiliser de l'argent, des ressources. Vous parliez de la Banque Centrale Européenne, Xavier Timbaud, comment est-ce que ça s'organise justement au niveau de l'Union Européenne? Il y a eu quelques tensions quand même ces derniers temps.
Alors, il y a eu quelques tensions, il y en a toujours. Il y a certains pays, en particulier des pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas ou l'Allemagne, pour ne pas les citer, qui sont assez réticents à l'idée qu'il devrait y avoir des mesures particulières de la Banque Centrale Européenne pour abaisser les taux dans ces circonstances, et que si les pays ne peuvent pas faire face à une augmentation de leur dette publique, ils doivent se débrouiller autrement. Il y avait même à un moment donné l'idée, par exemple, d'imposer à l'Italie des réformes dans le futur en échange d'une assistance européenne au moment du Covid-19, et donc d'utiliser cette crise comme un levier, ce qui évidemment aurait été assez insupportable. Alors, la situation a quand même largement évolué, et je pense que ces mauvais réflexes d'un certain nombre de dirigeants européens sont tombés. Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait beaucoup à perdre dans cette situation, à ne pas prendre les bonnes décisions et à rendre plus difficiles des situations qui sont déjà horriblement difficiles. Donc, je pense qu'il ne fait pas de doute que la Banque Centrale abaissera ses taux d'intérêt. Maintenant, abaisser les taux d'intérêt, les ramener à zéro, ça n'aide pas les dettes qui seront contractées pendant cette crise. Combiné aussi probablement au fait qu'il faudra dans le futur dépenser plus pour prévenir ce genre de crise, donc en particulier avoir des plans de contingence dans les systèmes sanitaires pour être prêt, puisque cette crise a quand même aussi montré que l'impréparation était quand même généralisée. Tout ça va faire qu'il va y avoir beaucoup de tensions sur les comptes publics, avec d'un côté des dépenses qui apparaîtront comme évidentes, et de l'autre, des dettes qu'il faudra aussi résorber. Donc,
et des ressources qu'il va falloir trouver. On arrive déjà au terme de cette émission. Je suis désolée, le temps passe assez vite. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, et Aurélie Trouvé, porte-parole de l'organisation Attaque Décryptage, a été réalisé ce soir par Fabrice Violet, attaché de production Florence Ponce et Charles Barré à la documentation. Restez à l'écoute de RFI. Dans un instant, vous retrouvez notre rendez-vous quotidien d'informations sur le coronavirus.